Emisión especial en directo del Parlamento de Estrasburgo.
EU Radio Nantes, frente a la redacción de Radio Nantes.
Un an après les élections européennes, les eurodéputés face à la rédaction de Radio Nantes.
Live from the Parliament in Strasbourg, en EU Radio Nantes. EU Radio Nantes. EU Radio Nantes, live from the Parliament.
Défi alimentaire, crise économique, politique étrangère de l'Union européenne, défis climatiques, enjeux sociaux, que font nos eurodéputés? Qu'ont-ils fait depuis leur élection du 7 juin 2009? Pendant deux heures, ici au Parlement, à Strasbourg, sur ce plateau radio, à côté de l'hémicycle où les futures lois européennes sont débattues et votées, nous recevrons une quinzaine de députés européens pour quatre débats d'une demi-heure. Et sans plus attendre, le premier d'entre eux, en votre compagnie, Anne-Sophie Breuil-Donc, sur la réforme de la PAC et de la PCP et cette question du défi alimentaire. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. PAC, trois lettres pour politique agricole commune. La PAC constitue l'une des politiques les plus importantes de l'Union européenne. Elle absorbe environ 40% du budget communautaire. La PAC sera réformée à l'horizon 2013. PCP, trois autres lettres pour politique commune de la pêche. L'Union européenne est la seconde puissance mondiale de la pêche après la Chine. La PCP sera réformée à l'horizon 2012. Et enfin, défi alimentaire, deux mots qui révèlent une triste réalité. Plus d'un milliard d'êtres humains qui souffrent de sous-alimentation. En quoi les réformes de la PAC et de la PCP répondront-elles ou non aux défis alimentaires? Une question qui en suscite d'autres. Par quelles mesures concrètes? Avec quels changements? Les OGM, oui, non? Pour éviter le gaspillage, la thrombine, solution ou manipulation? Et les agriculteurs, les pêcheurs seront-ils entendus? Concurrence, importation, fluctuation, marché, nouvelles technologies. Quels constats posent les eurodéputés et quelles solutions proposent-ils?
Merci Anne-Sophie pour répondre à toutes ces questions. Quatre invités, Mario Doceu Patrao Neves, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la commission de la pêche, membre du PPE, également membre de la commission de l'agriculture.
C'est vrai.
Marc Tarabella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes belge, membre de la commission de l'agriculture, socialiste. Christophe Béchu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes français, député européen de l'Ouest, membre de la commission agriculture, homme de droite. Et Stéphane Le Foll, bonjour. Vous êtes homme de gauche, vous avez été réélu le 7 juin 2009 dans la circonscription Ouest. Vous êtes membre de la commission agriculture. Merci à vous quatre d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et la première de ces questions est formulée par un expert. Il nous vient de votre région, Christophe Béchu et Stéphane Le Foll.
Tout à fait. Il s'agit de Bruno Parmentier. Bruno Parmentier est ingénieur des mines, économiste, auteur de l'ouvrage « Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle », directeur général de l'école d'ingénieurs en agriculture d'Angers. Bruno Parmentier.
Je demanderai aux députés, dans quel siècle vivez-vous? Est-ce que, au moment de réfléchir à la politique agricole commune, vous avez en tête les vrais grands problèmes du XXIe siècle? Est-ce qu'on veut manger au XXIe siècle? Est-ce qu'on veut manger longtemps et rester en bonne santé? Est-ce qu'on veut de l'eau potable? Est-ce qu'on veut de l'énergie? Et la réponse à ça, c'est où? C'est pas en ville, c'est à la campagne. Vous allez traiter du sort des gens qui ont en main les plus grands défis du XXIe siècle. C'est pas des paysans ringards du XIXe siècle dont vous allez parler. C'est les héros qui sont aux avant-postes des grands, des vrais défis du XXIe siècle.
J'imagine que vous avez tous conscience ici autour de cette table de l'enjeu de votre responsabilité. Qui souhaite réagir à ces propos de M. Parmentier, Bruno Parmentier? Stéphane Le Foll.
Je veux bien réagir rapidement parce que les questions qui étaient posées, c'est sommes-nous dans le XXIe siècle? Totalement et pleinement. Souhaitons-nous manger? Évidemment. Avoir de l'eau plutôt propre, oui, que sale, ça me paraît évident. Et qui va produire la production agricole? Les agriculteurs.
Vous avez bien compris la question qui était derrière toutes ces questions.
Bien sûr.
C'était l'interpellation directe.
Elle était un peu,
insolente.
Oui, un peu insolente pour des députés, comme si on était complètement en dehors de la réalité. On connaît très bien la réalité. Moi, j'ai été élu dans un village de 256 habitants où c'était l'agriculture qui, pendant toute une période, a dominé et l'activité économique et de ce village et puis l'activité et la vie de manière générale. Donc cette question-là, on l'aborde en étant lucide sur les enjeux. Il y en a trois, effectivement. Le premier, c'est la question alimentaire. Et les résultats qui nous sont donnés par la FAO, les objectifs, les enjeux sont immenses. Le deuxième, c'est la question de l'environnement. On ne traitera pas cette question si on n'intègre pas l'agriculture dans cette question comme la pêche. Ce sont sont les deux éléments majeurs. Et le troisième, c'est qu'on aura besoin partout de toutes les agricultures dans le monde et qu'on ne peut surtout pas faire, en tant qu'Européen, l'impasse sur la défense de notre propre agriculture dans toute sa diversité.
Christophe Béchu.
Je suis en grande partie d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Le Foll sur les enjeux et les constats, c'est parfois sur les modalités qu'on a des désaccords. Mais il faut comprendre qu'ici, au sein du Parlement européen, tout le monde a bien conscience, notamment dans les commissions de l'agriculture et de la pêche, que l'avenir de la PAC, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est bien l'avenir d'une politique d'alimentation commune. Et que cette question de l'alimentation, elle est au cœur des décisions que nous avons à prendre, avec un défi qui est très simple, finalement, à résumer pour ceux qui nous écoutent. Il y a aujourd'hui 6 milliards d'habitants sur la planète. Tous les experts nous disent que nous serons 9 milliards en 2050, avec une surface agricole utile qui n'aura pas augmenté dans les mêmes proportions. Et donc, il faudra qu'on soit capable de produire davantage, avec moins, et en étant capable de le faire de manière durable, ce qui permet d'insister sur la nécessaire exemplarité environnementale ou sur la prise en compte écologique de nos modes de production.
Mario de Seu, Patreon Neves.
Peut-être je peux parler pas seulement de l'agriculture, mais aussi de la pêche, que le problème se pose. C'est intéressant parce qu'il se pose d'une façon que je dirais opposée. En ce qui concerne l'agriculture, il faut produire le plus possible pour nourrir les millions de gens et surtout ceux qui ont de la faim. Mais à la pêche, on ne peut pas dire qu'il faut pêcher le plus possible. Au contraire, il faut investir dans la conservation et la protection des stocks qui sont déjà dans une situation biologique insoutenable. Alors le problème dans la pêche, c'est tout à fait différent de l'agriculture, mais il y a certainement le même objectif, que c'est d'avoir des aliments en quantité, mais aussi avec d'une qualité qui est bonne pour la santé de tous les citoyens.
Marc Tarabella, sur la problématique générale du défi alimentaire et cette interpellation de Bruno Parmentier.
Oui, mais dans le prolongement de ce qu'a dit Stéphane Le Foll, il est bien clair que M. Parmentier nous pose ça de manière un peu insolente, c'est vrai, même s'il pose la bonne question, mais on en est pleinement conscient. Et notamment grâce à Stéphane, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un pour qui j'ai toujours une admiration énorme, qui est Edgar Pisani. C'est un des pères de la PAC, mais c'est aussi le monsieur qui a écrit « Le vieil homme et la terre » et qui pose exactement les défis de l'agriculture aujourd'hui pour demain. 3 milliards de personnes en plus à nourrir, les sols qui ne vont pas être extensifs, je dirais, à profusion, la raréfaction de l'eau, le réchauffement climatique, et donc qui pose les questions de la gestion des sols. Et d'ailleurs, au risque d'être redondant vis-à-vis de Stéphane Le Foll, mais il a fait un excellent rapport sur la gestion des sols qu'il va falloir mieux gérer à l'avenir, de manière plus rationnelle. Et puis, est-ce qu'on va tolérer que 1 milliard d'êtres humains ne mangent pas leur faim sur Terre à l'avenir, ou est-ce qu'on va tolérer qu'une partie croissante ne mange pas leur faim?
On le tolère déjà.
Oui, on le tolère déjà, mais oui, moi, je ne vais pas anticiper, mais il est clair que l'OMC est en train de rater le but pour lequel elle a été créée, qui est de réduire la pauvreté dans le monde, dans les pays les plus pauvres. Est-ce qu'on va considérer que c'est le commerce international qui va régler problème de pauvreté, ou bien l'agriculture de subsistance dans toutes les sous-régions du monde, avec des échanges qui se fassent à une échelle plus locale, plus régionale. Donc c'est tout ça qu'il faut se poser comme question. C'est une globalité, il n'y a pas que l'agriculture, il y a tout ce qui est autour de l'agriculture également.
Monsieur Tarabella, la PAC va être réformée à l'horizon 2013. Est-ce que le défi alimentaire est inscrit dans cette réforme de la PAC ?
Clairement, nous sommes en train de réfléchir dans tous les groupes politiques, mais en tout cas dans le mien, le groupe socialiste et démocrate, on est en train de mettre la main à un document qui est quasi finalisé et qui fait en sorte que la PAC n'est plus seulement la politique agricole commune, mais peut-être la PAEC, la politique agricole et alimentaire et environnementale commune, qui va tenir compte évidemment des besoins alimentaires non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Et on y réfléchit énormément. Et notamment, c'est vrai, on va croire que je fais un plaidoyer pro domo pour mon ami Stéphane Le Foll, qui est évidemment l'élu régional en ce qui vous concerne, mais il est certainement l'un des maîtres d'œuvre de notre document au niveau du groupe socialiste et démocrate européen. Et c'est pas un mince exploit que d'avoir réuni 11 députés de 9 pays différents, aussi différents bien sûr que la France, mais aussi le Danemark, la Hongrie, la Pologne et bien d'autres, sur un document commun qui est assez fort à cet égard-là.
Même question avec vous, Madame Maria de Seu, Patrao Neves. Mais en ce qui concerne la PCP, dans sa réforme, la réforme de la PCP, le défi alimentaire est-il pris en compte?
Oui, bien sûr. Mais comme j'ai dit auparavant, la question se pose d'une façon différente. C'est-à-dire que dans la pêche, on ne peut pas dire de produire, ça veut dire de pêcher le plus possible. Non, la première question, c'est vraiment d'une gestion écosystématique, une gestion de l'environnement qui nous aide à protéger les stocks et les poissons, parce que nous n'avons pas maintenant la possibilité de continuer à pêcher de la même façon comme nous avons fait jusqu'à maintenant. Alors ce que nous voulons faire, c'est de pêcher le moins possible, mais de diriger la pêche pour certaines espèces avec une valeur commerciale plus élevée. Et ça veut dire que le pêcheur peut pêcher moins, mais avoir une meilleure rentabilité dans sa activité.
Euradio Nantes, en direct du Parlement.
Euradio Nantes.
Manger, c'est une chose, bien manger en est une autre. Sur cette question de sécurité alimentaire, les citoyens européens peuvent-ils être rassurés? Quand on parle OGM, thrombine, est-ce que tous ces sujets permettent d'être confiants vis-à-vis de ce que on mange en Europe? Christophe Béchu.
Alors, deux remarques. D'abord, notamment sous l'impulsion de la politique européenne qui a été conduite, nous avons le système de sécurité sanitaire ou de traçabilité alimentaire qui est le plus performant du monde. Mais il y a un problème. Ce problème, il est simple à comprendre. C'est que les règles, elles s'appliquent à ceux qui produisent en Europe, pas à ceux qui produisent à l'extérieur et qui vendent chez nous. Et c'est bien la limite de négociation commerciale à l'OMC qui viserait à brader, entre guillemets, nos produits agricoles contre d'autres types de produits, parce que ça consisterait à laisser entrer des produits qui ne respectent pas nos normes pour qu'ils puissent être vendus de manière totalement légale dans les grandes surfaces. Et c'est d'ores et déjà ce qui se passe pour un certain nombre de produits. La France, par exemple, est importatrice de bœuf. Malgré tout ce qu'on peut dire sur les qualités de notre agriculture, on est d'ores et déjà dans une situation où nous sommes importateurs. Et il y a à l'heure actuelle un projet, plus qu'un projet, un redébut de négociation entre la Commission européenne et ce qu'on appelle les pays du Mercosur, c'est-à-dire d'Amérique du Sud, autour des produits alimentaires, qui me scandalise à titre personnel, mais qui scandalise aussi beaucoup plus largement, je crois, la totalité des membres de la Commission agricole, parce que ça pose ce type de problème et de difficulté. Mais il ne faut pas tout mélanger. Parce que vous voyez, dans votre question, vous avez à la fois parlé de sécurité sanitaire et alimentaire, d'OGM et de thrombine. Et à un moment, on ne peut pas diaboliser ce que certains progrès permettraient d'amener si on veut résoudre l'équation comment je produis plus en consommant moins d'intrants et sur moins de surface.
Clairement, vous êtes pour les OGM.
Non, clairement, je dis qu'on est aujourd'hui dans une position totalement hypocrite.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on explique qu'on est totalement contre, mais nous mangeons de la viande qui en a consommé. Et on confond deux types d'OGM.
Donc il faut interdire cette viande, vous dites ça ou vous dites...
Bien entendu, moi ce que je dis c'est qu'il faut qu'on soit cohérent jusqu'au bout et que notamment dans la PAC il y a un principe de réciprocité qui soit posé par rapport à l'application des normes. Tous les produits qui sont vendus chez nous doivent respecter les normes, sinon on abuse les consommateurs en leur laissant penser que c'est notre législation interne qui s'impose, alors que c'est la législation des pays d'origine qui dans un certain nombre de cas, d'autres cas s'impose. Mais juste pour revenir sur les OGM, en fait on confond deux choses. On confond un type de modification génétique qui est totalement inacceptable et qui pose plus que des problématiques et qui consiste à marier des gènes qui ne se seraient jamais rencontrés de manière naturelle et à donc à jouer aux apprentis sorciers avec le vivant, avec des risques de brevetage, etc. Et des processus de modification génétique qui ne sont qu'une accélération de certaines procédures de sélection variétale où auquel cas on arrive à faire en moins de temps ce qu'aujourd'hui déjà on fait dans un certain nombre de secteurs où on fait de la sélection variétale pour arriver à des produits moins consommateurs en intrants, moins souvent malades, plus respectueux de l'environnement.
Sur cette question des OGM, est-ce que vous souhaitez réagir? Est-ce que le Parlement a le pouvoir de lutter contre, on le sait bien maintenant, José Manuel Barroso souhaite introduire les OGM en Europe? Maria Doceu, Patrao Neves.
Je crois que nous avons, nous ici les politiciens, nous avons encore un discours qui est un discours déjà passé. C'est un discours qui a été très bien il y a 20 ans, peut-être 20 35 ans, mais ce n'est pas maintenant un discours actualisé avec les données scientifiques que nous avons. Alors, je crois qu'il faut étudier un petit peu ce que la science nous dit sur les OGM et ne pas poser la question vous êtes pour ou vous êtes contre. Il faut analyser chaque situation et prendre des décisions dans chaque cas. Mais surtout, ne pas diaboliser les OGM parce que maintenant, on sait que les autres pays, que sont notre concurrent, ils usent les OGM et importent ces produits pour l'Europe. Alors, c'est-à-dire que nos agriculteurs sont en désavantage.
Donc, il faut faire barrière aux frontières européennes, Stéphane Le Foll ?
Barrières aux frontières européennes, remettre des barrières aux frontières européennes.
Non, mais pour empêcher, je comprends pas bien en fait, parce que vous dites à la fois non et oui aux OGM. Moi, j'entends les deux dans vos réponses.
Juste deux exemples sur les questions qui ont été posées précédemment. La thrombine, on la refuse en production en Europe. C'est le Parlement qui l'a décidé, oui, alors que c'était proposé par le Conseil. Si on importe de la viande qui a été recomposée d'ailleurs, nous, on n'en produira pas, mais on risque d'en importer à moins cher, ce qui fait que le consommateur, lui, pourra en acheter. C'est tout le
Donc
problème.
La solution est à la frontière.
La solution, en tout cas, elle est de mettre en adéquation ce que nous souhaitons avoir comme qualité sanitaire dans la production agricole et alimentaire avec ce que nous sommes capables d'accepter dans la négociation internationale et commerciale. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adéquation entre les deux. C'est tout l'enjeu des normes sociales, des normes environnementales qui devraient être beaucoup plus posées sur la table dans le cadre des négociations à l'OMC, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'Europe doit changer la manière dont elle négocie. Ça, c'est le premier point. Sur la question des OGM, le pire jusqu'ici, c'est que les OGM ont été portés d'abord par des industriels et que les modifications génétiques qui ont été apportées n'étaient pas du tout des modifications génétiques, comme ça a été dit, de sélection pour des améliorations qualitatives d'un certain nombre de végétaux, mais ont été des modifications génétiques apportées pour intégrer ou des pesticides ou des résistances à telle ou telle maladie, en utilisant en plus derrière les produits qui, vendus avec la semence, vont avec. C'était un intérêt industriel. Donc le débat démocratique a été posé de la pire des manières par les industriels. Et prenons l'exemple de Monsanto, qui nous a dit un jour, je vais nourrir le monde à moi tout seul. Et puis je crée une semence qui s'autodétruit si vous l'utilisez et vous voulez la réutiliser. L'horreur absolue. Donc tout le débat sur les OGM, ou la génétique, parce que ça dépasse la question des OGM, c'est de reposer les bases démocratiques des choix. Et je pense que le Parlement européen, en tout cas on en a fait la proposition au niveau de la Commission agricole, doit prendre en main ce débat démocratique. Quels sont les objectifs? Quelles techniques on peut utiliser? Pour quel objectif? Alors qu'aujourd'hui, on s'est fait, je le dis quand même, largement poussé par certains qui avaient des intérêts économiques, alors que nous, on a apporté l'intérêt collectif. Donc le débat doit être remis sur la table. C'est un débat qui doit être réorganisé. Je pense que le Parlement, là, il a un rôle majeur à jouer.
Luc Guyot est le président du Conseil de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Il soulève un autre aspect du problème qui nous occupe ce soir, le gaspillage des denrées alimentaires. Sur l'ampleur de la situation, écoutez Luc Guyot.
Il y a 30% de la nourriture dans le monde qui n'arrive pas à la bouche des consommateurs. 15% qui est dans le cadre de nos pays développés par le gaspillage et 15% dans les pays en développement, bien souvent par des manques d'infrastructures, de routes, de stocks. Et donc là, il y a déjà un travail important.
Mario Doceu Patrao-Neves, je rappelle que vous êtes membre de la commission de la pêche et de la commission de l'agriculture. Le gaspillage dans ce secteur, dans le secteur de la pêche en particulier, est très important. Que faire pour limiter ce gaspillage concrètement? Que faites-vous?
Ce que je peux dire, c'est que sur la question maintenant, quand on étudie la réforme de la PCP, qui peuvent aider d'une certaine façon à avoir plus de poissons et plus bien distribués. Et je dirais seulement deux topics. Le premier, c'est investir dans l'aquaculture. Et le deuxième, c'est d'avoir des accords avec les pays d'autres pays. Et des accords qui, entre l'Union européenne et ces pays, qui, d'une certaine façon, les aident aussi à développer le secteur de la pêche.
Monsieur Tarabella, de quelle manière la lutte contre le gaspillage est-elle inscrite dans la réforme de la PAC? Par quelles mesures concrètes?
Moi, je dirais que c'est d'abord autour de la PAC qu'il faut le faire. C'est une question d'éducation. Moi, je ne gaspille jamais de la nourriture. J'ai tendance à manger tout ce qu'il y a dans mon assiette, mais ça, c'est parfois un défaut.
Vous voulez dire que vous êtes d'une certaine génération?
Oui.
C'est un problème générationnel, c'est
non,
ce que je veux dire?
Non, parce que je n'ai que 47 ans, mais moi, je n'ai jamais eu faim, mais mes parents ont eu faim. Et mes grands-parents ont eu faim. Et donc, depuis le plus jeune âge, je sais qu'on ne laisse rien sur son assiette, même si ça fait poli de laisser quelque chose. Donc, il vaut mieux prendre moins comme portion et la manger toute que de gaspiller, de jeter à la poubelle. Donc, je jette jamais à la poubelle. Moi, je donne aux oiseaux. Quand j'ai du pain sec, il va jamais à la poubelle. La nourriture ne va jamais à la poubelle. Et ça, on l'inculque plus aux gosses. C'est d'abord une question, je pense, d'éducation. Et la PAC, évidemment, n'est pas l'outil le plus adéquat pour lutter contre le gaspillage. Même si, des mauvais exemples ont été donnés quand on a libéré, les quantités avant l'instauration des quotas et qu'on a produit, qu'on a payé la production et qu'on l'a détruite. C'était scandaleux, c'était choquant. C'est pour ça que la PAC n'est pas sympa aujourd'hui et qu'elle est refusée par certains parce qu'ils ont encore ces images dans la tête. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment réguler la production et arrêter le libre jeu du marché. Il faut arrêter avec le free market, le jeu du marché. Il faut réguler, et ça c'est un des maîtres mots de la PAC. Donc ça, si la PAC doit jouer un rôle, c'est la régulation des marchés à l'avenir.
Europa en directo desde Euradio Nantes.
L'Europe en direct sur Euradio Nantes.
Europe live on Euradio Nantes.
Maria do Seu Patrao Neves, membre de la commission de la pêche et de la commission de l'agriculture, PPE, Marc Tarabella, SED, membre de la commission de l'agriculture, Christophe Béchu, PPE, membre de cette même commission, Stéphane Le Foll, SED, membre également de cette commission. Ils sont là sur le plateau de Radio Nantes en direct du Parlement à Strasbourg pour débattre du défi alimentaire. Anne-Sophie à mes côtés.
Oui, et on va écouter maintenant Julien Valentin, qui est vice-président du Conseil européen des jeunes agriculteurs. Il aborde la réforme de la PAC sous un autre angle. Écoutez-le.
Le bien-être animal, c'est bien. N'oublions pas aussi le bonheur des agriculteurs. Et je suis, je dirais, un pourfendeur de tout cela. Je veux le bonheur de mes collègues. Je veux que l'on vive fiers et heureux, debout, pour pouvoir nourrir nos concitoyens et pour pouvoir, demain, transmettre des exploitations qui soient saines, viables et vivables.
Le défi alimentaire, on l'entend dans ces propos de Julien Valentin, vice-président du Conseil européen des jeunes agriculteurs, passe nécessairement par les producteurs, qu'ils soient agriculteurs ou pêcheurs. Y a-t-il un volet social dans la PAC, Christophe Béchu?
Encore une fois, il faut bien comprendre que la PAC de l'après 2013, c'est ce que nous allons en faire dans les mois qui viennent.
Et donc, avez-vous prévu un volet social?
On ne peut pas dire les choses de cette manière. Une des questions, c'est est-ce que si on continue d'attribuer des aides à l'hectare, on le fait de manière totalement proportionnelle, ou est-ce qu'au contraire, on aide davantage, par exemple, les 100 premiers hectares que les suivants, ce qui serait une manière de garantir, j'allais dire, une sorte de prime à l'emploi ou à l'indépendance de ces agriculteurs sur le territoire. Mais ce qui me semble aussi très intéressant, c'est de bien comprendre que pour avoir un revenu ou pour avoir une situation sociale, il y a deux manières. Il y a celle qui consiste à rajouter des crédits et il y a celle qui consiste à éviter de rajouter des dépenses. Et dans l'exemple qui est cité, il faut qu'on arrive, nous aussi législateurs, à bien mesurer que le mieux peut être l'ennemi du bien. Bien sûr, ce serait fantastique de pouvoir faire des progrès dans tous les domaines, y compris dans celui du bien-être animal. Mais à un moment, quand on est dans une situation de crise économique comme celle que nous connaissons, est-ce que la priorité, c'est vraiment d'aller augmenter le nombre de mètres cubes de respiration pour les bœufs qui sont conduits à l'abattoir dans les camions? Est-ce que la priorité, c'est vraiment les conditions dans lesquelles vivent les poules? Il faut aussi qu'on soit capable de remettre les choses à leur place. Et je pense que dans la crise des finances publiques que nous connaissons, il y a une invitation très au-delà de la PAC à bien s'interroger sur la manière dont, pour combattre les déficits sans toucher à ce qui, pour chacun d'entre nous, sera le plus important, il faut peut-être aussi qu'on soit capable d'arrêter de produire des normes qui engendrent des coûts dont les bienfaits, notamment sociaux, sont parfois loin d'être évidents.
Stéphane Le Foll, vous partagez cet avis, le bien-être animal au détriment du bien-être de l'agriculteur ou du pêcheur?
Je voudrais juste dire un mot par rapport au gaspillage, ce qu'a dit Luc Biot, parce qu'on n'a pas été assez loin là-dessus. Il y a un manque d'investissement dans les infrastructures liées à l'agriculture et à l'alimentation, et ça c'est une faute politique qui a été faite depuis 20 ans, où on a considéré que le développement du commerce ferait le développement de l'agriculture. Si on n'investit pas en agriculture, on ne peut pas assurer la structuration des infrastructures nécessaires à éviter le gaspillage. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Sur la question bien-être animal et agriculture, je pense qu'on a au Parlement, et on le sent très bien, une pression très forte d'un certain nombre de pays sur cette question du bien-être. Et soyons entre nous, entre les pays du Sud et une grande partie du Nord, il y a a là un point de clivage qu'on retrouve assez souvent, que ça soit sur la politique de la pêche ou que ça soit dans la politique agricole. On est tous pour améliorer le bien-être animal. C'est nécessaire, il faut aller dans ce sens-là. Mais il y a, de ce côté-là, je trouve, dans beaucoup de domaines et sur beaucoup d'exemples, et c'était donné en particulier sous le transport, quelque chose qui va bien au-delà même de ce qu'on pourrait quelquefois demander aux hommes. Quand on parle des normes sociales, de ce qui se passe par exemple dans un certain nombre de pays où les hommes produisent en étant touchés directement dans des conditions lamentables, les mêmes qui parlent du bien-être ne parlent jamais du bien-être des hommes, que ce soit des agriculteurs en Europe ou de ceux qui, à l'extérieur de l'Europe, produisent dans des conditions insupportables. Donc moi j'aimerais qu'on retrouve un équilibre, oui au bien-être animal, mais aussi dans un équilibre social qui est absolument nécessaire. Et de ce côté-là, je pense que nous sommes autour de la table ceux qui portons une majorité pour essayer d'équilibrer les choses.
Fermeture de la pêche au thon rouge, à l'anchois, limitation régulière des quotas sur de nombreuses espèces, déchirage de navires de pêche, pêcheurs sur le quai. Prend-on en compte les pêcheurs dans la réforme de la PCP, Maria Doceo Patraoneves?
Ce que j'ai toujours défendu, c'est d'avoir des mesures au niveau environnemental, mais aussi au niveau social. Et les uns ne vont pas sans les autres. Alors, bien sûr qu'il faut avoir des mesures très restreintes au niveau environnemental, parce que, comme j'ai déjà dit, il y a une surpêche qui ne peut pas continuer. Mais bien sûr que nous avons aussi des pêcheurs qui dépendent de la pêche pour survivre. Et ces pêcheurs ont aussi un rôle très important dans les zones côtières, parce qu'avec l'activité de la pêche, on a aussi la gastronomie, on a des activités touristiques, on a toute une culture. C'est-à-dire que le pêcheur a plusieurs activités, pas seulement la pêche. Alors il faut le protéger aussi. On ne peut pas seulement dire il n'y a pas de poisson, alors on va fermer, on va envoyer pour la retraite tous les pêcheurs. Ça ne va pas. Il faut encore en ce sujet de trouver un juste équilibre pour conserver les stocks et aussi pour maintenir l'activité de la pêche d'une façon soutenable.
Un tout dernier mot, Christophe Béchu.
Sur la pêche, je souhaitais juste dire que dans le même esprit de ce que je disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui, de la part de la Commission, toute une réflexion sur la remotorisation pour faire en sorte de diminuer les coûts de gasoil et aussi la consommation des pêcheurs, en se disant qu'à défaut de pouvoir pousser leurs revenus, si au moins on diminue leurs charges, on prendra une mesure qui sera bonne pour l'environnement et qui permettra également d'améliorer le niveau de ce qu'ils gagnent. Et il faut, dans ce domaine, une plus grande transparence entre les experts scientifiques et les pêcheurs qui ont parfois du mal à comprendre la manière dont on constate quel est l'état des stocks. Plus on est transparent, et ça vaut pour les OGM, comme pour la pêche, comme pour d'autres sujets. Et plus on est clair, plus je pense aussi qu'on est capable de faire comprendre et accepter les réformes qui sont parfois nécessaires.
Une question subsidiaire, Christophe Béchu. On se donne rendez-vous dans un an, ici même, pour refaire le point.
Écoutez, je pense que derrière votre question, il y a le fait que je suis soumis au cumul des mandats.
Non, c'est un rendez-vous. Je vous demande si vous serez là.
Ma réponse, c'est que j'aurai effectivement à prendre à la rentrée des décisions en ce qui concerne le maintien de ma présence ici, puisque je devrais abandonner ou la présidence du Conseil général ou le Parlement européen. Et donc, je ne donne pas de rendez-vous quand je ne suis pas certain de pouvoir les honorer.
Bon, merci pour votre franchise, Christophe Béchu. Merci, Stéphane Le Foll. Merci, Maria Doceo Patraoneves. Et merci, Marc Tarabella.
Neo Radio Nantes.
Émission spéciale en direct du Parlement de Strasbourg.
EU Radio Nantes.
Ça va?
Alors, il est 17h31 sur Euradio Nantes. Nous apprenons que l'Espagne vient de perdre face à la Suisse. Enfin, du moins, pas encore. Hein. Le match n'est pas tout à fait fini. Nerea Pereira vient de nous rejoindre, puisque derrière l'actualité européenne qu'on vient de développer dans cette première demi-heure, eh bien, il y a aussi cette actualité du football qui est suivie de près, hein, Nerea, par les eurodéputés, et également par les journalistes qui couvrent la session plénière à Strasbourg.
Bonsoir Cyril. Oui, effectivement, les parlements battent au rythme des débats parlementaires, bien sûr, mais aussi au rythme de la Coupe du Monde. J'ai pris la température ici. L'Allemagne, l'Espagne, le Brésil et l'Argentine sont les favoris. J'ai capturé pour vous l'ambiance. Tout de suite, un reportage dans les couloirs du Parlement.
Et le ballon dévié par
Mendoza sur postérieur de Jean Beauséjour, qui est donc...
La Coupe du Monde est un phénomène de société. Les députés sont des gens comme tout le monde, qui s'intéressent à d'autres choses que des rapports, des amendements, des accords en première lecture.
Ouais, c'est toujours intéressant ici au Parlement européen parce qu'il y a beaucoup de nationalités. Mais je suis pas un grand fan du foot, donc je crois que je vais travailler.
C'est même postérieur et même peut-être l'arrière de la cuisse.
Ben l'ambiance, c'est plutôt pas mal, hein. Je ne sais pas, je vois pas mal des fonctionnaires avec des maillots de foot de leurs pieds.
On n'a pas beaucoup de temps pour regarder les matchs, mais je fais quand même un petit effort entre deux choses. J'essaye de regarder des matchs de temps en temps parce qu'il y a toutes les chaînes ici, donc on a l'opportunité.
Espagne, Argentine, Brésil, Allemagne, ça sont mes quatre favoris. Hein.
Voilà des propos recueillis par vous cet après-midi, Nerea Pereira. On se retrouve à 18h30 pour savoir si le 1-0 Espagne-Suisse, alors en faveur de la Suisse, hein, si j'ai bien compris, se transforme par un match nul. On se retrouve à 18h30.
D'accord. Europa en directo desde Euradio Nantes.
L'Europe en direct sur Euradio Nantes.
Europe live on EU Radio Nantes.